RFI, 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et tout de suite, un point sur l'info africaine. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Julien et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une, 15 audiences et toujours aucun débat sur les faits. Au Cameroun, 2 ans, jour pour jour après l'enlèvement et le meurtre de l'animateur radio Martinez Zogo, le procès est au point mort, enlisé dans des questions de procédure et les avocats font une nouvelle fois part de leur indignation. Un citoyen espagnol enlevé dans le sud de l'Algérie. Madrid a confirmé cette nuit l'information de la presse espagnole. Selon nos sources, il aurait été emmené vers le Mali par des hommes armés liés à la branche sahélienne du groupe djihadiste État islamique. Au sommaire également, Faustin Archange Touadéra à Moscou, le président centrafricain plus proche que jamais de son homologue russe Vladimir Poutine. La RDC va recevoir 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international, un décaissement conditionné à certaines réformes structurelles. Le cacao malgache plus attractif que jamais. La fève rapporte de plus en plus sur la grande île au point peut-être de dépasser l'emblématique vanille. Et puis du sport, juste après ce journal. Après le report du championnat, on entendra le désarroi des clubs congolais. En l'absence de match, il est de plus en plus difficile de motiver les joueurs. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, un drame secouait le Cameroun. L'animateur radio Martinez Zogo était enlevé devant un poste de gendarmerie de Yaoundé. 5 jours plus tard, son corps était retrouvé sur un terrain à l'extérieur de la ville. Dans son émission, Martinez Zogo dénonçait la petite et la grande corruption, invectivait les puissants sans jamais s'en prendre au président Biya. Depuis, l'enquête a connu de nombreux rebondissements. 17 accusés doivent toujours comparaître devant le tribunal militaire de la capitale, mais à Militulé, le procès est enlisé dans des questions de procédure.
Déjà 2 ans que nous tournons en rond, soupire l'avocat de Justin Danoué, ex-directeur des opérations de la DGRE, qui reconnaît l'implication de son service dans l'enlèvement de Martinez Zogo, mais pas dans son assassinat. 2 ans de prison sans être jugé, on est au-delà du délai raisonnable, ajoute maître Jacques Mbouni. Une 15aine d'audiences et toujours pas de débat sur les faits. Avocat d'un autre accusé, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Bellinga, maître Charles Chungang déplore la multiplication des obstacles pour éviter d'aller au fond. L'enquête au procès, la justice militaire camerounaise a cumulé les vices de procédure selon les avocats des prévenus, mais aussi de la famille. Résultat, un calendrier suspendu aux décisions attendues de la cour d'appel du centre. Pour maître Siri Simplice Zoku, son client, l'ancien directeur général du renseignement, Léopold Maxime Eko-Eko, est victime d'une procédure visant à l'accuser faussement et n'a rien à voir avec la recherche de la vérité. Selon maître Calvin Job, qui représente des proches de Martinez Zogo, la lenteur de ce procès est la conséquence du profond malaise de la justice militaire autour d'une affaire au relent politique. Pour lui, seul un sursaut d'orgueil et d'indépendance des magistrats fera avancer les choses.
Amélie Tullet, et ce matin, la sœur aînée de Martinez Zogo, Flore Zogo, témoigne sur notre antenne. Elle fait part de sa douleur et demande à la justice de faire son travail rapidement afin d'enterrer son frère dans la dignité. On en parle aussi avec notre invité juste après ce journal, le chroniqueur judiciaire Christophe Bobiocono répond aux questions de Christophe Bouet. Un ressortissant espagnol enlevé en Algérie. Confirmation ce matin du ministère espagnol des Affaires étrangères qui dit travailler activement à la résolution de l'affaire. Le kidnapping a eu lieu mardi soir dans le sud de l'Algérie. Des hommes armés l'ont emmené au Mali voisin. Pas de revendication à ce stade, mais les sources jointes par RFI accusent la branche sahélienne du groupe djihadiste État islamique. David Bachet.
Assekrem est une zone montagneuse et touristique que les chancelleries occidentales déconseillent à leurs ressortissants. Selon plusieurs cadres rebelles du FLA dans le nord du Mali et selon des sources communautaires locales, c'est là que l'enlèvement a eu lieu. Ni son identité précise, ni le motif de son séjour n'ont pu être suffisamment recoupés. Après l'enlèvement, les ravisseurs prennent la direction du Mali voisin. Leur véhicule traverse la frontière vers Tinzawaten, puis gagne la région de Ménaka. Pas de revendication, la frontière Algérie-Mali est dans la zone d'influence du Jnim liée à Al-Qaïda, mais les sources jointes par RFI pointent unanimement l'État islamique au Sahel, ce que le repli dans la région malienne de Ménaka, contrôlée par le IS, semble confirmer. Cet enlèvement est un revers pour l'Algérie qui réussissait depuis plusieurs années à contenir la menace djihadiste sur son territoire. En 2013, la prise d'otage du site gazier d'In Amenas avait fait près de 40 morts. En 2014, un randonneur français français avait été exécuté près de Tizi Ouzou par un groupe affilié à l'État islamique.
David Baché. En bref, au Niger, l'ancien ministre du pétrole a été arrêté mercredi. Selon des membres de sa famille, Barké Mustapha a été amené vers une destination inconnue. On ne sait pas ce que lui reprochent les autorités. Il avait été limogé de son poste de ministre il y a près de 4 mois. Faustin Archange Touadéra à Moscou. Le président centrafricain est en visite en Russie. Il s'est entretenu hier avec Vladimir Poutine. De cette rencontre peu infiltrée, seulement les propos préliminaires, une déclaration dans laquelle le chef de l'État centrafricain a salué l'aide apportée par, je cite, « les braves guerriers russes à son pays ». Fin de citation. La Centrafrique où la Russie avait dépêché des mercenaires présentés comme des instructeurs militaires. RFI Moscou, Anissa El Jabri.
À peine une petite table au Kremlin entre Vladimir Poutine et Faustin Archange Touadéra, un des signes protocolaires classiques envoyés par la Russie pour souligner une proximité. Le président centrafricain a appelé le chef de l'État russe son très cher ami et dans la partie de son discours rendu public, il s'est félicité de la présence des forces russes dans son pays.
Aujourd'hui, l'armée formée par les instructeurs russes est une force puissante qui poursuit et détruit les terroristes et autres criminels sur le territoire de la République centrafricaine. Nous voulons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à l'intérieur du pays, aux frontières de la République centrafricaine, en collaboration avec des spécialistes russes qui se sont révélés être de véritables professionnels et de braves guerriers.
Rien, en tout cas officiellement, sur une contrepartie sécuritaire dont on entend souvent parler depuis 2 ans, soit l'installation d'une base militaire russe dans le pays. En revanche, échange bien connu pour la présence des forces russes, Faustin Archange Touadéra a vanté les richesses naturelles de son pays.
La République centrafricaine regorge d'énormes ressources stratégiques et minières encore inexploitées. Je me réjouis de la signature par nos ministres des Mines et de l'Agriculture des protocoles d'accord en vue de redynamiser notre coopération dans ces deux domaines.
Quelques heures auparavant, la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, avait promis à Faustin Archange Touadéra que les législateurs feraient tout leur possible pour la mise en œuvre des accords. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
Le président angolais est lui en visite en France. João Lourenço a rencontré Emmanuel Macron hier. En plus de signer des contrats à 420 millions d'euros, les deux chefs d'État ont évoqué le conflit dans l'est de la RDC et appelé à la reprise des négociations au plus haut niveau entre Kinshasa et Kigali, l'est de la RDC. Et cette question, se dirige-t-on vers un allègement de l'état de siège dans l'Ituri et le Nord Kivu ? C'est en tout cas ce que laisse entendre le président congolais lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Félix Tshisekedi a donné 15 jours à son gouvernement pour lui faire des propositions en ce sens. On reste en RDC. Le pays va recevoir près de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Le conseil d'administration de l'institution a approuvé hier le programme économique et financier du gouvernement. Alors plusieurs dispositifs vont être mis en place. Ils visent à stabiliser l'économie, améliorer la gouvernance ou encore renforcer la lutte contre le changement climatique. Quels sont les détails de ces programmes ? Réponse à Kinshasa avec Passion Ligodi.
Le premier programme soutenu par la FEC est évalué à 1,8 milliard de dollars, vise à préserver la stabilité macroéconomique et à renforcer la gouvernance financière. Le FMI recommande à la RDC d'adopter une gestion plus rigoureuse des finances publiques. Parmi les mesures prioritaires figurent la mise en place d'un compte unique du Trésor destiné à centraliser les fonds publics et le respect strict des procédures budgétaires standards. Les autorités congolaises sont également tenues de réduire leur dépendance aux revenus miniers en établissant un cadre budgétaire hors ressources extractives. Le second programme, financé par la FRD à hauteur de 1,1 milliard de dollars, soutiendra les efforts de la RDC pour atténuer les effets du changement climatique et protéger ces vastes forêts tropicales. Ce volet s'inscrit également dans la vision stratégique de Kinshasa pour devenir un acteur clé de la transition mondiale vers une économie verte. De son côté, le gouvernement congolais promet de poursuivre la mobilisation des recettes intérieures et d'améliorer la transparence dans la gestion des fonds publics. Le ministère des Finances, par exemple, s'engage à renforcer la discipline budgétaire, notamment par la modernisation de la chaîne de dépenses et la déconcentration des ordonnancements budgétaires. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Lui était rentré au pays pour relancer l'économie. Au Gabon, Maïs Mouissi a quitté le ministère de l'économie pour celui de l'environnement et du climat. On en parlait hier. Le chef de la transition a procédé à un léger remaniement mercredi. François Mazet, après 16 mois à la tête des finances du pays, Maïs Mouissi aura connu peu de succès.
Analyste brillant, critique virulent du régime Bongo, Maïs Mouissi est une figure d'ouverture pour la transition lorsqu'il rentre au Gabon prendre les rênes de l'économie en septembre 2023. 16 mois plus tard, le panorama est inquiétant. Le pays vit au-dessus de ses moyens, le déficit et la dette gonflent. La Banque mondiale vient de suspendre ses décaissements en raison d'arriérés non payés que le gouvernement a promis de solder au plus vite. Un économiste souligne les résultats décevants des levées de capitaux en 2024 et la crédibilité écornée du pays au sein de la CEMAC. Il n'avait pas pris la mesure de ce qu'il attendait de l'inertie du système, estime un observateur. Il a été victime de sa naïveté et de son arrogance. Il n'avait aucune expérience du fonctionnement de l'administration et a manqué d'humilité, tranche un parlementaire de la transition. Mais pour un autre acteur politique de premier plan, Maïs Mouissi paye surtout des décisions prises par d'autres. Les dépenses non financées, les achats d'aéronefs pour la présidence ne sont pas les choix du ministre de l'économie. C'est le plus fragile qu'on a jugé bon de sacrifier, juge-t-il. Pour autant, Maïs Mouissi n'est pas mis à l'écart. Il récupère le ministère de l'Environnement et du Climat, un poste également stratégique au Gabon.
François Mazet, le chef des forces armées soudanaises sanctionné par les États-Unis. Washington reproche au général Al-Bourhan d'être un obstacle à la transition démocratique. On y revient dans le journal de Martin Guez dans un peu moins de 20 minutes. On part pour Madagascar avant de refermer cette édition. La grande île où la filière cacao a dévoilé son bilan pour 2024. Il est très bon, 15 000 tonnes exportées contre 12 000 l'an dernier. Des chiffres en hausse alors que le cours de la fève est au plus haut. Résultat, Sarah Teto, cette année, la filière pourrait dépasser en valeur celle de la vanille.
La filière cacao à Madagascar semble tirer les fruits de sa structuration entamée il y a plus de 10 ans. Premier à en bénéficier, les exportateurs bien sûr, l'État, mais surtout les petits producteurs, explique Philippe Fontaine, vice-président du Conseil national du cacao.
Avec ces 15 000 tonnes et les prix à l'export, c'est une année exceptionnelle, puisque en valeur, c'est une filière qui dépasse les 100 millions de dollars, et ce qui représente pour nos producteurs à peu près 9 dollars par jour. Et je pense qu'on peut dire qu'on a sorti de la pauvreté nos 30 000 producteurs.
Mais si le cacao malgache tire son épingle du jeu, c'est aussi grâce à un contexte mondial totalement inédit.
Madagascar, qui a obtenu son label cacao fin, doit bénéficier d'une prime sur le marché international. Donc ce volume plus ce prix supérieur au marché international fait qu'aujourd'hui, nous tirons effectivement profit de cette situation.
Une situation internationale largement perturbée par l'effondrement en 2024 de la production de la Côte d'Ivoire et du Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux. Dans ce contexte favorable à une filière cacaoyère malgache en plein développement, plusieurs sujets aux enjeux considérables doivent encore être débattus. Commencer par la fiscalité de la filière et la contribution réelle des exportateurs à la balance commerciale. Les discussions sont en cours avec l'administration fiscale. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Antananarivo, il est 8h43, 2h de moins ici à Paris et je vous laisse en compagnie de Julien Coquelroem pour la suite d'RFI Matin.
Merci Arthur Panchelet. À tout à l'heure, 5h43 en temps universel. Tout de suite les sports.